me retrouver avec vous au GBU, à la retraite. En effet, un ministère associé, surtout dans le temps où j'ai eu la libre lecture de la Bible, a eu un impact énorme dans ma vie pendant que j'étais encore au secondaire. Et puis de deux, ce groupe, au moins le groupe de Polytech, mon fils était là pendant plusieurs années. Oui, j'ai essayé de l'avoir pour qu'il vienne, mais il s'est marié, ça fait une année, et puis son épouse vient d'arriver à peine, donc j'ai pas pu l'arracher de cette affection-là. Bon, mais en tout cas, je suis très très honoré d'être avec vous. Et comme le thème l'indique, ce n'est pas seulement être disciple, c'est vivre à contre-courant, mais honnêtement, ma prière, c'est que pendant cette fin de semaine, que le Seigneur nous tire des sentiers battus, pour que nous allions à contre-courant. Et ce soir, bien sûr, je veux simplement introduire un autre thème. Et pour le faire, je vais aussi me baser sur la parole de Dieu. Parce que le plus important, c'est être disciple, nous pouvons le savoir, nous allons parler de ça. Mais le plus important ici, c'est marcher à contre-courant. Qu'est-ce qui nous a justifié à aller dans ce sens-là? Je peux vous dire que c'est la parole de Dieu. En 1 Timothée chapitre 6, et je vais simplement lire le verset 11 et 12. Nous lisons ceci, ou peut-être même qu'on peut lire un peu plus tôt. Il dit, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle confession de foi. En présence de grand nombre de témoins. » En réalité, pour moi, ces deux versets résument les deux épîtres de Paul à Timothée. Et ça reflète ma passion, mon désir pour ces deux jours, cette fin de semaine devant nous. Nous savons le contexte, Paul est en prison. Il est allé à Rome très volontiers parce qu'il croyait défendre sa cause. Et une fois rendu à Rome, il se rend compte qu'il ne sortira pas de là vivant. Alors il voit tout ce qu'il a fait, toutes les églises qu'il a implantées, des gens qu'il a amenés à Christ, le ministère qu'il a commencé, les combats qu'il a combattus. Et il déverse toute son énergie maintenant pour préparer la relève. Et nous trouvons la sève, la crème de cette pensée dans ces deux lettres qu'il a écrites à Timothée. Ici, le message de Paul est à la fois honnête, parfois même brutal, dur, mais très sincère. Et s'il faut résumer le message de Paul à Timothée, sur qui il compte pour la relève, sur qui il compte pour la suite du ministère, on peut le résumer en trois choses. Paul dit à Timothée quatre choses. Paul dit à Timothée, connais le contexte de ton temps. Ça, c'est la première chose. Mes amis, si nous voulons servir Dieu dans notre génération, nous devons connaître notre temps. Et la deuxième chose que Paul dit à Timothée, connais-toi toi-même. Et la troisième chose, connais ou reconnais ta vocation. Et enfin, la quatrième chose, reconnais les ressources que Dieu met à ta disposition. Alors, brièvement, parce que, au fait, ce qui va suivre va tourner autour de ça. Connais le contexte de ton temps. Et ici, Paul n'est pas tendre. Il dit que on est dans les derniers jours. À plusieurs reprises, il est dit au chapitre 1 Timothée chapitre 4, verset 1, 2 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit, nous sommes dans les derniers jours. Et il va même plus loin, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il dit, dans les derniers jours, il y aura de temps difficile. Désolé, je dois vous dire que votre temps sera plus difficile que le mien. Ça ne va pas être mieux. Non, ça ne va pas s'améliorer, je suis désolé. C'est la Bible qui le dit. Il y aura de temps difficile. Et nous venons ici dans un contexte tout à fait approprié, où les églises, les responsables d'églises de toutes sortes, on est tellement agités au Québec à cause de la loi sur la laïcité. Paul est en train de dire, je vous l'avais dit, je vous ai prévenu, il y aura des temps difficiles. Mais, quelle est la réponse? Quelle est l'attitude adoptée? Pour Paul, la première réponse, c'est que Timothée devait se connaître lui-même. Connais-toi toi-même. Quelle est votre identité? Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes? Et ici, Paul rappelle à Timothée son identité, il appelle mon enfant, il appelle ministre de Jésus-Christ, il appelle soldat de Jésus-Christ. Paul fait même référence à sa jeunesse. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Paul fait référence à l'héritage spirituel de Timothée qui a commencé par sa grand-mère. Paul fait aussi référence à son expérience, à l'expérience spirituelle de Timothée. Combien il a fait un beau témoignage devant des témoins et comment on a imposé de main sur lui. Mais la référence la plus importante, le point d'identité le plus important pour moi, se trouve au verset que nous avons lu, verset 11. Il dit, mais toi, homme de Dieu. Est-ce que vous sentez l'appel à la vie à contre-courant? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront ceci, les hommes seront méchants. Voilà ce qui va arriver. Mais toi, homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, plus que toutes les législations du monde, plus que toute la politique du monde, plus que tout ce à quoi nous pouvons nous attendre, Dieu sait que lui attend, il attend des hommes et des femmes qui feront la différence. Oui, le monde va dans ce sens, mais toi, homme de Dieu. Et d'ailleurs, la référence à homme de Dieu. Ça, c'est l'attribut le plus respectueux, le plus important qu'on accordait, pas à tout le monde, pas à tous les prophètes, pas à tous les dirigeants, mais à un groupe de gens sélects dans l'Ancien Testament, en qui le peuple pouvait voir Dieu à l'œuvre. On les appelait homme de Dieu. Toi, homme de Dieu. Et vous devez savoir, moi je viens de l'Afrique, et pour les Africains, je vous dis que je viens du Congo. Chez nous, même dans les églises, il y a une course au titre. Moi, je suis arrière-petit-fils d'un pasteur, petit-fils d'un pasteur, fils d'un pasteur, neveu d'un pasteur, et ainsi de suite. Mais moi, je me rappelle, mon arrière-grand-père, qui était le tout premier pasteur dans notre dénomination, il ne s'est jamais appelé révérend. C'était seulement pasteur. C'était simple. Et je me rappelle, quand mon grand-père, on commença à les appeler les révérends. Alors, moi, j'étais encore, je crois, à la fin du primaire. Et mon grand-père m'invite dans son bureau parce qu'il venait de finir une lettre. Maintenant, il doit signer révérend. Et il me dit, mais comment on écrit révérend? Ça s'écrit comment? Honnêtement, je crois que j'étais en sixième primaire. Je ne savais pas. Et il n'y avait pas de Google, il n'y avait rien. Donc, j'ai couru chez mon père qui était enseignant aussi. Je suis allé chercher un dictionnaire, puis j'ai fouillé, j'ai trouvé le mot révérend. Et puis, il copiait ça petit à petit. Maintenant, il était devenu révérend. Mais ma génération a dépassé ça, parce que les révérends, ça ne suffisait plus d'être révérend pasteur. Il fallait être évêque. Et puis, parce que évêque aussi, ce n'est pas suffisant. En français, comment ça s'appelait? Épiscopo. Donc, et puis, il y a un qui s'est appelé, non? Épiscopo Yayambo. Donc, le plus grand, le plus élevé des évêques. Mais Paul écrit à Timothée, mais toi, homme de Dieu. Mes amis, à mon âge, on pense déjà à la fin. Et mon souhait le plus intime dans ma vie, c'est quand je mourrai et que quelqu'un qui passe devant ma tombe, qu'on dise de moi, c'était un homme de Dieu. Je ne peux même pas qu'on fasse mention de tout ce que Joël a mentionné ici, non. Je veux simplement qu'on dise, il fut un homme de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. Et il n'y a pas d'exception. Pour être un homme de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, un évêque, un archevêque, et je ne sais pas moi qui, non. Vous savez, un exemple que je trouve très intéressant, se trouve dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle de David. On parle de David en 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 17 à 18. Le roi Saül, qui était le premier roi, avait un problème mental, un problème de santé mentale. Et puis déjà à cette époque-là, on savait qu'il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. Il y a quelqu'un, un de ses conseillers lui dit, écoute, il suffit que quelqu'un joue de la musique pendant que tu es agité par cet esprit-là, ça va apaiser ton mal. Et on demande de chercher un musicien. Et puis, il y a quelqu'un parmi les conseillers qui parle de David. Ah, je connais un jeune homme. Et il est décrit bien. Il est beau, il est ceci, il est talentueux, il est courageux. Mais il dit quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, c'est un homme de Dieu. Mais ce David-là était en brousse, un berger. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. C'est ce qui faisait de lui un homme de Dieu. Quelle que soit la vocation à laquelle Dieu vous appelle, vous pouvez faire la différence dans votre secteur. Vous pouvez être un homme de Dieu. Mais pas seulement ça. Reconnais-toi toi-même. Paul dit aussi à Timothée, reconnais ta vocation. Quelle est la vocation première? C'est la vie à la sainteté. 2 Timothée 3, 5. La vocation seconde, c'est servir Dieu pour le compte des autres. 1 Timothée 2, 3, 5 toujours. 3 à 5. Mais Paul dit que pour servir Dieu, ça ne sera pas facile. Et nous reviendrons sur cet thème. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi il lui dit, combat le bon combat. Et dans le passage qui va de 1 Timothée 1, 18 à 19, et puis 6, chapitre 6, 11 à 12 que nous avons lu, Paul emploie des verbes d'action. Il lui dit, combat le bon combat, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Tous ces verbes d'action là montrent que, c'est comme Paul le dira ailleurs, je cours non pas en battant l'air, c'est sérieux. C'est sérieux. Si nous voulons faire la différence, nous devons savoir que c'est un combat. Et le combat, ce n'est pas seulement le combat qu'on combat dans la prière, ou pour moi au Congo, plus on crie, plus on effraie les esprits. Mais ici, littéralement, il y a des moments où le combat consiste à fuir. Il y a des moments où le combat consiste à rechercher. David, dans le psaume 63, il est dans le désert de Juda. Vous savez, qu'est-ce qui l'a amené dans le désert de Juda? C'est la menace de son propre fils Absalom qui cherchait à le tuer. Mais dans le psaume 63, qu'est-ce que David dit? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon corps a soif de toi. Mon âme soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il y a des moments où nous devons dire, mais Dieu, où es-tu? Je te cherche. Et voilà la consolation de David. Je te contemple. Il est au désert. Il dit, je te contemple comme dans les sanctuaires. Et lisez la suite, c'est magnifique. Le combat, c'est parfois rechercher, fuir, rechercher. Mais aussi combattre, saisir. Saisir, c'est... Ma ville natale, c'est au bord du fleuve Congo. Quand vous vous noyez, le fleuve Congo est dangereux. Quand vous vous noyez, mes amis, tout ce qui flotte devient source d'espoir. Vous vous accrochez à ça comme si votre vie en dépendait. C'est ça saisir, c'est s'accrocher à quelque chose comme si toute votre vie en dépendait. Et c'est ça le combat. Il nous arrive des moments où on doit s'accrocher fermement. Mais ce qui est beau dans le texte que nous venons de lire, c'est que ce n'est pas seulement difficile, mais il y a aussi des ressources. Connais le contexte de ton temps. Connais-toi toi-même. reconnais ton combat ou ta vocation, mais aussi reconnais tes ressources. Il y a des ressources, nous ne sommes pas seuls. Et Dieu fait pour nous au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La première épître d'Éphésiens nous rappelle même que la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en nous qui croyons. Quoi de plus avons-nous besoin? Mes amis, l'invitation est claire. Le monde va à la dérive, ça ne sera pas mieux. Ça va être plus difficile pour les chrétiens. Mais la parole de Dieu nous invite à la différence. Marcher à contre-courant. Nous devons connaître notre temps. Connaître notre vocation. Nous connaître nous-mêmes. Et reconnaître les ressources que Dieu met à notre disposition. Parce qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous pouvons tout, pour la gloire de ton nom. Voilà un peu le cheminement que nous allons faire au cours de ces deux jours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.